Chapitre 14. Une demi-heure après, j'étais de retour au château et j'informai Miss Halcombe de tout ce qui venait d'arriver. Elle écouta mon récit d'un bout à l'autre avec l'attention suivie et silencieuse qui, chez une femme douée comme elle, prouvait, mieux qu'aucun autre symptôme, combien il l'affectait sérieusement. « J'ai de tristes pressentiments, me dit-elle simplement lorsque je finis. L'avenir à présent m'apparaît bien sombre. » L'avenir, lui répondis-je, peut dépendre du présent tel que nous saurons l'employer. Il n'est nullement improbable qu'Anne Catherick s'expliquera plus volontiers et avec moins de réserve vis-à-vis d'une femme que vis-à-vis de moi. Si Miss Fairley, il ne faut pas y penser, pas une minute, interrompit Miss Halcombe avec son accent le plus péremptoire. Laissez-moi donc, continuai-je, vous conseiller de voir vous-même Anne Catherick et de mettre tout en œuvre pour gagner sa confiance. Je recule, moi, devant l'idée de jeter l'alarme une seconde fois dans cette pauvre âme effarouchée, comme je l'ai fait aujourd'hui. Voyez-vous quelque inconvénient à venir demain avec moi jusqu'à la ferme? Pas le moindre. J'irai partout. Je ferai tout au monde pour sauvegarder les intérêts de Laura. Comment dites-vous que s'appelle cet endroit? Vous le connaissez très certainement. Il porte le nom de Todd's Corner. Sans doute, sans doute. Todd's Corner est une des fermes de M. Fairley. Notre fille de laiterie est la seconde fille du fermier. Elle va et vient continuellement d'ici à la ferme occupée par son père. Peut-être a-t-elle vu, peut-être sait-elle par lui dire quelque chose qu'il serait bon de ne pas ignorer. Voulez-vous que je m'informe tout de suite si cette fille est en bas? Sans attendre ma réponse, elle sonna et dépêcha un domestique. Il revint, annonçant que la fille de laiterie était pour le moment à la ferme. Elle n'y était pas allée depuis 3 jours, et ce soir-là, la femme de charge lui avait accordé une sortie de faveur. « Je lui parlerai demain, » me dit Miss Halcombe, quand le domestique nous eut laissés. « D'ici là, expliquez-moi bien à quoi peut servir mon entrevue avec Anne Catherick. Ne voyez-vous aucun doute à ce que ce soit Sir Percival Glyde, et non tout autre, qui l'ait fait emprisonner dans cette maison de fous ?»« Pas l'ombre d'un doute. Tout ce qui reste à éclaircir, c'est le motif qu'il a pu avoir. » Vu l'énorme distance sociale qui sépare ces deux êtres, et qui semble exclure jusqu'à l'idée d'un rapport quelconque entre eux, il est de la dernière importance, dût-il être prouvé qu'on avait toute raison de l'enfermer, de savoir pourquoi il a été, lui, l'agent principal de cette terrible détermination. Vous remarquerez cependant qu'il s'agit d'une maison de santé. C'est bien là, je crois, ce que vous avez dit. Certainement, une maison de santé. Un de ces asiles, par conséquent, où les riches seuls, d'ordinaire, peuvent se faire admettre. Et c'est là qu'il a fallu la retenir, comme malade, en payant pour cela chaque année une somme considérable. Je vois maintenant, Monsieur Hartwright, où est le nœud de la question, et je vous promets qu'elle sera résolue avec ou sans les renseignements que pourra nous donner demain Anne Catherick. Sir Percival Glyde ne passera pas de longs jours en cette maison sans avoir complètement édifié là-dessus, et M. Gilmore et moi-même. L'avenir de ma sœur est mon principal souci dans ce monde, et j'ai sur elle assez d'influence pour me mettre à même d'y veiller en ce qui concerne son mariage. Nous nous quittâmes là-dessus jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, après le déjeuner, un obstacle dont les incidents de la veille m'avaient fait perdre le souvenir nous empêcha de nous rendre immédiatement à la ferme. C'était le dernier jour que je dusse passer à Limeridge House, et il fallut, aussitôt que le courrier fut arrivé, conformément aux avis de Miss Halcombe, solliciter de M. Fairley qu'il voulût bien abréger d'un mois la durée de mon engagement, en vue de certaines nécessités pressantes qui exigeaient mon retour à Londres. Comme pour rendre plus probable ce prétexte vain, la poste m'apporta 2 lettres portant le timbre de la capitale. Je les emportai chez moi, et fit demander tout aussitôt à M. Fairley quand il lui serait loisible de me recevoir pour affaires urgentes. J'attendis le retour du domestique sans la moindre inquiétude sur l'accueil qui serait fait par son maître à la demande que je lui adressais. Avec ou sans la permission de M. Fairley, j'étais certain de partir. La certitude d'avoir mis définitivement le pied sur cette triste voie, qui allait désormais séparer mon existence de celle de Miss Fairley, semblait avoir émoussé en moi toute pensée qui se rapportait à moi seul. J'en avais fini avec les susceptibilités de l'orgueil viril. J'en avais fini avec mes petites vanités d'artiste. Aucune insolence de M. Fairley, s'il lui plaisait de se montrer insolent, ne pouvait maintenant m'atteindre. Son valet revint pourtant avec un message auquel je ne m'attendais pas. M. Fairley regrettait que l'état de sa santé, particulièrement altéré ce matin-là, ne lui permît pas le plaisir de me recevoir. Il me priait d'agréer ses excuses et de vouloir bien lui communiquer par écrit ce que je pouvais avoir à lui dire. Plusieurs fois déjà, depuis 3 mois que je résidais chez lui, pareille communication m'avait été transmise ainsi. M. Fairley se déclarait toujours heureux de me posséder, mais jamais il ne s'était trouvé assez bien portant pour me recevoir. À mesure que j'avais restauré, monté une série de dessins, le valet solennel les portait avec mes respects chez son maître et revenait les mains vides, chargé des meilleurs compliments, des remerciements tout particuliers, des regrets sincères de M. Fairley que sa condition valétudinaire obligeait de rester emprisonné dans la solitude de ses appartements. Il eût été difficile d'inventer un arrangement qui fût aussi agréable pour lui et pour moi. Je ne sais lequel des deux, en pareille circonstance, se sentait le plus obligé à cet ébranlement si commode du système nerveux de M. Fairley. Je m'assis immédiatement à mon bureau pour rédiger la lettre requise, que je tâchais de rendre aussi polie, aussi nette, aussi courte que possible. M. Fairley ne se pressa point de répondre. Près d'une heure s'était écoulée quand m'arriva un beau petit billet tracé à l'encre violette sur un papier plus épais que le carton, plus lisse que l'ivoire, en caractère d'une netteté, d'une régularité parfaite. Il était conçu en ces termes. Compliment de M. Fairley à M. Hartwright. M. Fairley est surpris et désappointé au-delà de toute expression, dans l'état actuel de sa santé, par la communication que lui adresse M. Hartwright. M. Fairley est étranger aux affaires, mais il a consulté son intendant, qui les connaît, et cet individu confirme M. Fairley dans l'opinion déjà conçue qu'aucune nécessité quelconque, sauf peut-être un cas de vie ou de mort, ne saurait justifier la requête de M. Hartwright, par laquelle il sollicite la rupture de son engagement. Si quelque chose pouvait ébranler ses sentiments de respectueux égard envers l'art et ses adeptes, qui sont la consolation et l'unique félicité de la misérable existence à laquelle M. Fairley est condamné, le procédé actuel de M. Hartwright aurait eu ce résultat. Il ne l'a pas eu, cependant, sauf en ce qui concerne M. Hartwright lui-même. Son opinion, une fois exprimée, aussi bien du moins que les souffrances nerveuses très aiguës lui ont permis, M. Fairley n'ajoutera rien que pour indiquer sa décision relativement à la demande tout à fait irrégulière qui lui a été transmise. Un repos complet de corps et d'esprit étant pour lui de la dernière importance, M. Fairley ne souffrira pas que M. Hartwright porte atteinte à ce repos, en demeurant chez lui dans des circonstances essentiellement irritantes pour tous les deux. C'est pourquoi M. Fairley, mettant de côté l'incontestable droit qu'il aurait de se refuser à ce que lui demande M. Hartwright, et mettant ce droit de côté, uniquement pour garder la paix qui lui est nécessaire, fait savoir à M. Hartwright que celui-ci est libre de partir. Je pliai tranquillement cette lettre et la classai parmi mes autres papiers. À une autre époque, je l'aurais regardée comme une insulte et ressentie comme telle. Je n'y voyais maintenant que l'annulation par écrit du contrat qui me liait. Lorsque je descendis dans la salle à manger, je n'y songeais réellement plus, et c'est à peine si j'en avais gardé le souvenir lorsque j'informai Miss Halcombe que j'étais prêt à l'accompagner à la ferme. « Monsieur Fairley vous a répondu dans le sens que vous désiriez ?» me demanda-t-elle au sortir du château. « Il m'a permis de partir, lui dis-je. » Elle leva vivement les yeux sur moi. Et alors, pour la première fois depuis l'origine de nos relations, elle prit mon bras sans que je le lui offrisse. Il n'est pas de mots qui eussent exprimé avec autant de délicatesse qu'elle comprenait en quels termes j'avais dû être libéré de mes obligations et qu'elle m'accordait sa sympathie, non pas comme on l'accorde à un inférieur, mais à titre d'égal et d'ami. je n'avais pas ressenti l'insolente lettre de l'homme, mais l'expiatoire bonté de la femme m'alla au cœur. En cheminant vers la ferme, nous combinâmes que Miss Halcombe entrerait seule, et que je l'attendrais au dehors de la maison, mais à portée de voix. Nous réglions ainsi les choses, craignant que ma présence, après ce qui s'était passé la veille au soir dans le cimetière, ne réveillât les terreurs nerveuses d'Anne Catherick, et n'ajoutât aux méfiances que devaient lui inspirer les prévenances d'une dame qu'elle allait voir pour la première fois de sa vie. Miss Halcombe me devança, dans l'intention de parler d'abord à la femme du fermier, sur le bon vouloir et l'assistance de qui elle savait d'avance pouvoir faire fond, tandis que je resterais à quelques pas de l'habitation. Je m'étais attendu à y demeurer seul assez longtemps. 5 minutes cependant s'étaient à peine écoulées, quand, à ma grande surprise, Miss Halcombe reparut. « Anne Catherick refuse-t-elle de vous voir ?» lui demandai-je, étonné. « Anne Catherick est partie, » répondit Miss Halcombe. « Partie, partie avec Mrs. Clemens. Toutes deux ont quitté la ferme ce matin, à 8 heures. » Je ne trouvais pas une parole. Je sentais seulement que notre dernière chance de découverte s'était évanouie avec ces deux femmes. « Tout ce que Mrs. Todd sait de ses hôtesses, je le sais aussi, » continua Miss Halcombe. « Mais je n'en suis pas plus éclairée qu'elle ne l'est elle-même. Elles sont revenues saines et sauves, hier soir, après vous avoir quitté, et comme à l'ordinaire, ont passé avec la famille de M. Todd le commencement de la soirée. Mais comme on allait servir le souper, Anne Catherick les a tous effrayés, en se trouvant mal subitement. Une attaque du même genre, mais moins alarmante, l'avait saisie le jour même de son arrivée à la ferme. Et ce jour-là, Mrs. Todd crut pouvoir l'attribuer à quelques nouvelles qu'Anne aurait lues par hasard dans notre journal de comté, posées accidentellement sur une table et qu'elle venait de prendre depuis 1 ou 2 minutes. Mrs. Todd saurait-elle donc quel passage de ce journal a pu l'affecter à ce point ? Demandai-je avec empressement. Non, répondit Miss Halcombe. Elle l'avait déjà parcouru et n'y avait rien trouvé qui pût causer une telle agitation. Je lui ai cependant demandé de l'examiner à mon tour, et dès la première page, j'ai constaté que le rédacteur de cette feuille avait grossi, aux dépens de nos affaires de famille, sa petite provision de nouvelles, en publiant, entre autres annonces tirées des journaux de Londres et sous la rubrique « Marriages in High Life », les projets d'une union relative à ma sœur. J'en ai immédiatement conclu que ce paragraphe était la cause de la singulière commotion subie par Anne Catherick. Et j'ai cru y découvrir aussi l'origine de la lettre que, le lendemain, elle a dépêchée au château. Ni l'une ni l'autre hypothèse ne saurait faire l'objet du moindre doute. Et maintenant, ne vous a-t-on rien appris sur les causes probables de cette seconde attaque survenue hier au soir? Absolument rien. Un mystère complet enveloppe cette partie de l'histoire. Aucune personne étrangère à la famille n'était à ce moment dans la chambre. Il n'y avait, arrivant du dehors, que notre fille de laiterie, laquelle, vous le savez, est une des filles de Mrs. Todd. La conversation roulait exclusivement, comme à l'ordinaire, sur les commérages de la localité. Tout à coup, et sans le moindre motif apparent, on entendit cette jeune fille pousser un cri, on la vit pâle comme la mort. Mrs. Todd et Mrs. Clemens l'emmenèrent dans les pièces du haut, et Mrs. Clemens y resta près d'elle. On les entendit causer jusqu'à 1 heure très avancée de la nuit, et ce matin, de bonne heure, Mrs. Clemens, prenant à part Mrs. Todd, l'étonna au-delà de toute expression en lui déclarant qu'elles étaient obligées de partir. La seule explication que celle-ci put arracher à sa parente fut qu'il était survenu quelque chose, sans la faute d'aucun des gens de la ferme, qui forçait Anne Catherick à quitter immédiatement Limeridge. Pressée de questions, Mrs. Clemens eût été parfaitement inutile. Elle se bornait, pour toute réponse, à secouer la tête et à supplier que, pour l'amour d'Anne, on cessât de l'interroger. Très sérieusement agitée elle-même, à ce qu'il paraissait, elle se bornait à répéter qu'Anne partirait, qu'elle partirait avec Anne, et que l'endroit où elles étaient forcées d'aller chercher refuge resterait un secret pour qui que ce fût au monde. Je vous épargne le détail des remontrances hospitalières de Mrs. Todd, et des constants refus qu'elles provoquèrent. À la fin, elle a conduit ses deux femmes en voiture à la station la plus voisine, il y a maintenant plus de 3 heures. Chemin faisant, la bonne femme a essayé plus d'une fois, mais sans succès, de les amener à des excuses plus explicites. Blessée de leur brusque départ et de leur déni de confiance, elle les a brusquement déposés à la station, sans même prendre le temps de leur dire adieu. Voilà très exactement ce qui est arrivé. Fouillez dans votre mémoire, monsieur Hartwright, et dites-moi si, dans ce qui s'est passé hier soir au cimetière, il y a quelque chose qui puisse, le moins du monde, expliquer le départ extraordinaire de ces deux femmes. Je voudrais d'abord m'expliquer, Miss Halcombe, ce changement soudain d'Anne Catherick, qui a si fort alarmé les gens de la ferme, plusieurs heures après que nous nous étions quittés, et lorsqu'il s'était écoulé assez de temps pour calmer, si violente qu'elle fût, l'agitation dont j'avais pu avoir le malheur d'être la cause. Vous êtes-vous d'abord informé avec soin des propos qui se tenaient devant elle au moment où elle s'est trouvée mal? Sans doute, mais les soins du ménage me paraissent avoir distrait, ce soir-là, Mrs. Todd de la causerie qui se poursuivait dans le salon de la ferme. Tout ce dont elle se souvient, c'est, pour parler son langage, qu'on se disait les nouvelles. Or, je suppose qu'il faut entendre par là les vains bavardages dont ces gens ont l'habitude. La fille de laiterie aura peut-être meilleure mémoire que sa mère, repris-je après un instant de réflexion. Vous pourriez, Miss Halcombe, lui parler dès que nous serions rentrés. Ce conseil fut suivi aussitôt notre arrivée au château. Miss Halcombe me conduisit du côté des communs, où, dans la laiterie, nous trouvâmes la jeune fille, ses manches retroussées jusqu'à l'épaule, nettoyant une ample terrine et accompagnant son travail d'une joyeuse chanson. « Hannah, lui dit Miss Halcombe, j'ai amené ce gentleman pour voir votre laiterie. C'est une des curiosités du château, et la manière dont vous la tenez vous fait honneur. » Cette fille, étonnée et rougissante, répondit avec une révérence timide qu'elle donnait tous ses soins à la propreté des objets qui lui étaient confiés. « Nous arrivons de chez votre père, continua Miss Halcombe. Vous y étiez hier soir, à ce que j'ai ouï dire. Et vous y aviez des visites. Oui, miss. Une de ces personnes s'est trouvée mal, m'a-t-on dit. Je suppose pourtant qu'on n'a rien compté ou rien fait qui pût l'effrayer. Vous ne parliez sans doute d'aucune circonstance bien terrible, n'est-il pas vrai ? Oh non, miss, dit la fillette en riant. On se disait tout bonnement les nouvelles. Vos sœurs, j'imagine, vous donnaient celles de Todd's Corner. Oui, miss. Et vous leur disiez celles de Limeridge House. Oui, miss, et je suis bien sûr que rien n'a été dit pour effrayer la pauvre créature, car c'est moi qui parlais au moment où son mal l'a prise. Ça m'a donné un coup de la voir, miss, n'ayant jamais moi-même perdu connaissance. Avant qu'on eût pu lui adresser d'autres questions, elle fut appelée à la porte de la laiterie pour recevoir un panier d'œufs. Au moment où elle s'éloignait de nous, je dis, penché à l'oreille de Miss Halcombe, « Demandez-lui si par hasard elle a parlé hier soir des visiteurs attendus à Limeridge House. » Un regard de Miss Halcombe me montra qu'elle comprenait. Et la question fut en effet posée, aussitôt que la petite laitière revint près de nous. « Oh oui, miss, j'en ai parlé, dit cette fille le plus naturellement du monde. La société qui arrive et l'accident survenu à la vache tavelée, voilà toutes les nouvelles que j'avais emportées à la ferme. Avez-vous nommé quelqu'un ? Disiez-vous que Sir Percival Glyde était attendu lundi ? Oui, miss, je leur ai conté que Sir Percival Glyde allait arriver. Il n'y a pas de mal à cela, j'espère. J'espère bien n'avoir pas été fautive. Du tout, pas le moindre mal. Allons, monsieur Hartwright, Hannah va commencer à nous trouver de trop si nous la dérangeons plus longtemps dans son travail. Notre premier mouvement, en nous retrouvant seuls, fut de nous arrêter et d'échanger un regard. « Eh bien, Miss Halcombe, vous reste-t-il à présent quelques doutes ?»« Sir Percival Glyde le dissipera, ce doute, Monsieur Hartwright. Sans cela, Laura Fairley ne sera jamais sa femme. » Chapitre 15. Comme nous tournions le coin du château, un cabriolet du chemin de fer remontait l'avenue. Miss Halcombe attendit sur les marches du perron l'arrivée du léger équipage. Alors elle s'avança pour serrer la main d'un vieux gentleman, qui sauta lestement à terre dès que le marchepied eut été abaissé. Tout ceci annonçait l'arrivée de M. Gilmore. Je l'examinai quand nous fûmes présentés l'un à l'autre, avec un intérêt et une curiosité que je pouvais à peine dissimuler. Ce vieillard allait, moi parti, demeurer à Limeridge House. Il allait écouter les explications de Sir Percival Glyde. c'était à son expérience que Miss Halcombe aurait recours. Et selon qu'il la conseillerait, elle trouverait, oui ou non, ses explications suffisantes. Il devait rester jusqu'à ce que la question du mariage fût définitivement réglée. Et si elle l'était dans un sens affirmatif, c'était sa main qui tracerait l'écrit en vertu duquel Miss Fairley se trouverait irrévocablement engagée. Même alors, et je ne savais rien auprès de ce que j'ai su depuis, le jurisconsulte de la famille m'inspirait un intérêt que je n'avais encore éprouvé pour aucun inconnu. L'extérieur de M. Gilmore était exactement l'opposé de celui que la tradition attribue aux vieux avocats. Il avait le teint fleuri, ses cheveux étaient un peu longs et soigneusement brossés. Ses habits, noirs de la tête aux pieds, lui allaient merveilleusement bien. Le nœud de sa cravate blanche était des plus réguliers. Ses gants de chevreau, couleur de bois, auraient pu se trouver sans peur et sans reproche sur les mains potelées et bien entretenues d'un ecclésiastique à la mode. Ses manières avaient toute la grâce formaliste, le raffinement courtois de la vieille école, avivé par la promptitude alerte et le sang-froid toujours présent d'un homme que sa profession oblige à tenir sans cesse prêt l'usage de toutes ses facultés. Un heureux tempérament, un optimisme servi par des circonstances favorables dès le début, une longue carrière ensuite, d'honorable et confortable prospérité, une vieillesse gaie respectée de tous, telles furent les impressions générales qui me restèrent de ma présentation à M. Gilmore, et je ne ferai que lui rendre justice, en ajoutant que nos relations ultérieures ne les ont modifiées en rien. Je laissai le vieux gentleman et Miss Halcombe entrer au château et causer ensemble des affaires de la famille, sans être gênés par la présence d'un intrus. Ils traversèrent le vestibule pour se rendre dans le salon, tandis que, redescendant le perron, j'allais seul me perdre dans le jardin. Les heures étaient comptées que je devais passer à Limeridge House. Mon départ était irrévocablement fixé au lendemain matin. Je n'avais plus aucun rôle à jouer dans les investigations que la lettre anonyme avait rendues nécessaires. En laissant mon cœur s'abandonner, pendant les courtes heures qui me restaient, à la triste douceur des adieux, je ne faisais donc de tort qu'à moi-même. Et ces adieux, je les devais bien au site désormais inséparable dans mes souvenirs, de ce rêve de bonheur et d'amour si rapide et si brusquement tranché. Je tournais d'instinct dans cette allée tracée sous la fenêtre de mon atelier, où je l'avais vu, le soir d'avant, se promener avec son petit chien. Et je suivis le sentier que ses pieds chéris avaient si souvent foulé jusqu'à la petite porte grillée de sa roseraie. L'hiver, maintenant, avait tristement dépouillé cette enceinte, naguère encore si riante. Les fleurs dont elle m'apprenait les noms, les fleurs que je lui apprenais à peindre, avaient toutes disparu, et les sentiers étroits qui se dessinaient en blanc à travers leurs massifs, humides à présent et presque boueux, commençaient à verdir déjà. Je poussai jusqu'à la charmille sous laquelle nous avions respiré ensemble la tiédeur parfumée des soirs d'août, où nous avions admiré ensemble les innombrables combinaisons d'ombre et de lumière qui pommelaient la plaine étendue au-dessous de nous. Des branches gémissantes, les feuilles tombaient autour de moi, et l'atmosphère chargée d'émanations terreuses me gelait jusqu'à la moelle des os. En marchant toujours, je me trouvais hors de l'enclos, suivant cet étroit chemin entre deux haies qui doucement montaient vers les coteaux voisins. Le vieil arbre abattu au bord du sentier, et sur lequel nous nous étions si souvent assis pour nous reposer, était imbibé de pluie. Et la touffe de fougères et d'herbes que j'avais dessinée pour elle, s'abritant devant nous à l'ombre de cette vieille muraille rugueuse, s'était transformée en une flaque d'eau stagnante au milieu de laquelle se dressait un îlot de plantes souillées de limon. J'arrivais au sommet de la colline et contemplais de là le paysage que, dans les temps plus heureux, nous aimions tant à étudier. Le froid, la stérilité l'avaient envahi. Ce n'était plus le paysage dont j'avais gardé souvenance. Sa présence rayonnante ne l'éclairait plus. À la brise passant sur la plaine immense, ne se mêlaient plus les notes harmonieuses de sa voix. Justement, en cet endroit où je contemplais le vaste horizon, elle m'avait parlé de son père, resté son dernier protecteur. Elle m'avait dit combien ils s'étaient aimés l'un l'autre et avec quel regret elle songeait encore à lui lorsqu'elle entrait dans certains appartements du château. ou lorsqu'elle reprenait telles occupations, tels passe-temps que jadis il partageait avec elle. La vue que j'avais eue sous les yeux en prêtant l'oreille à ses confidences intimes, et celle que dans mon isolement je contemplais aujourd'hui, était-ce réellement la même? Sans regret, je la quittai. Je revins, traversant les marécages, et tournant les dunes jusqu'au bord de la mer. Là blanchissait le ressac, écumant de colère, et bondissaient les vagues, multitudes étincelantes, mais là aussi était l'endroit où je l'avais vu, du bout de son parasol, tracer sur le sable des lignes indécises. L'endroit où nous étions restés assis l'un près de l'autre, où elle m'avait entretenu, de moi et de mon pauvre intérieur, où elle m'avait adressé sur ma mère et ma sœur une foule de questions empreintes de cette délicatesse d'observation qui caractérise les femmes, où elle s'était demandé, avec un naïf étonnement, si jamais je renoncerais à mon célibat solitaire et libre pour avoir à moi une épouse, une famille. Les flots et les vents avaient depuis longtemps effacé les traces d'elle que ces lignes auraient dû éterniser à mon gré. Je regardais dès lors sans nul intérêt la vaste monotonie des falaises, et ce lieu, consacré pour moi par le souvenir des heures radieuses que nous y avions perdues, me devint tout à coup inconnu, étranger, comme si j'étais déjà transporté dans une région qu'elle n'eût jamais habitée. Le vide silence des grèves me glaçait le cœur. Je revins dans cette maison, dans ce jardin où, à chaque pas, quelques vestiges me parlaient d'elle. Sur l'allée de la terrasse exposée au couchant, je rencontrai M. Gilmore. Il me cherchait, évidemment, car il hâta le pas dès que nous nous aperçûmes. Je n'étais pas dans une situation d'esprit qui me rendit particulièrement agréable de me rencontrer avec un inconnu. Mais cette conférence était à peu près inévitable, et je n'avais plus qu'à en tirer le meilleur parti possible. « Vous arrivez fort à propos, » me dit le vieux gentleman. « J'ai, mon cher monsieur, deux mots à vous dire, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je profiterai de l'occasion qui s'offre. » Pour abréger les préliminaires, je vous dirai que Miss Halcombe et moi, nous venons de traiter certaines affaires de famille, les affaires qui m'ont amené ici, et, dans le cours de notre conversation, elle en est tout naturellement venue à me parler tant de ces détails désagréables auxquels se rattache la lettre anonyme que de la part très honorable et très convenable prise par vous dans tout ce qui a été fait jusqu'ici. Cette coopération, je le comprends à merveille, doit vous faire prendre un intérêt très vif qu'en d'autres circonstances vous n'auriez pas ressenti, à savoir en bonne main la direction de l'enquête par vous commencer. Soyez parfaitement tranquille sur ce point, mon cher monsieur. Cette enquête est désormais mon affaire. Vous êtes, sous tous les rapports, monsieur Gilmore, bien plus capable que moi de conseiller et d'agir en une matière si délicate. Jugeriez-vous indiscret de ma part de vous demander si vous avez arrêté la marche que vous comptez suivre? En tant qu'on puisse l'arrêter dès à présent, monsieur Hartwright, elle est arrêtée. Je compte envoyer une copie de la lettre, avec un exposé détaillé des circonstances y relatives, à l'avocat de Sir Percival Clyde, un de mes confrères de Londres que je connais quelque peu. Je garderai ici la lettre elle-même en original pour la montrer à Sir Percival Clyde aussitôt son arrivée. J'ai déjà pourvu au moyen de retrouver les deux femmes, en envoyant un des serviteurs de M. Fairley, un homme de confiance, chargé de prendre des renseignements à la station. Il a tout l'argent nécessaire, des instructions très détaillées, et pour peu qu'il retrouve leurs pistes, il doit les suivre en quelque lieu qu'elles soient allées. C'est tout ce qui peut se faire jusqu'à lundi, jour où arrive Sir Percival. Quant à moi, je ne doute pas qu'il ne donne immédiatement toutes les explications que l'on doit attendre d'un gentleman et d'un homme d'honneur. Sir Percival est placé fort haut, monsieur. Sa position est éminente, sa réputation au-dessus de tout soupçon. Je suis donc, quant au résultat, parfaitement rassuré. Parfaitement rassuré, je me plais à vous le dire. Ma vieille expérience m'apprend que pareilles choses arrivent quasi tous les jours. Lettres anonymes, femmes malheureuses, c'est le fait de notre triste état social. Je reconnais qu'il y a, dans ce cas particulier, quelques complications extraordinaires. Mais, abstraction faite, dit celle, rien de plus commun, de plus déplorablement commun que le cas en lui-même. Malheureusement pour moi, monsieur Gilmore, je crains bien de ne pas l'envisager du même point de vue que vous. naturel, mon cher monsieur, très naturel. Je suis un vieillard, et les choses m'apparaissent sous leur aspect pratique. Vous êtes un jeune homme, et vous vous attachez à ce qu'elles ont de romanesque. Ne disputons pas sur nos manières de voir. Mon métier me condamne à vivre dans une atmosphère de dispute, monsieur Hartwright, et je ne suis que trop enclin à m'y soustraire quand je le puis, comme à présent. Attendons les événements. Attendons-les, mon cher monsieur. Voici un charmant séjour. La chasse y est-elle bonne? Probablement non. Monsieur Fairley ne fait pas garder sa terre, à ce que je crois. C'est égal, charmant séjour. Société fort agréable. Vous dessinez, monsieur Hartwright? Vous êtes peintre, à ce qu'on dit. Un talent qu'on voudrait avoir. Quel genre cultivez-vous? Nous retombâmes ainsi dans la conversation banale, c'est-à-dire, pour être plus vrai, M. Gilmore causa, et je fis semblant de l'écouter. Mon attention était bien loin de lui et des sujets qu'il traitait avec une faconde surabondante. Mes deux dernières heures de promenade solitaire m'avaient laissé sous une influence encore active. J'avais arrêté dans mon esprit le projet de hâter mon départ. Pourquoi prolonger inutilement, fût-ce d'une minute, la dure épreuve des adieux? À qui désormais ma présence pouvait-elle servir? En continuant à séjourner plus longtemps dans le Cumberland, je perdais mon temps purement et simplement. Et comme aucune limite n'était fixée dans le congé que j'avais obtenu de mon patron, pourquoi ne pas en finir, et ne pas en finir à l'heure même? Je m'y décidai. Il restait encore quelques heures de jour, et nulle raison n'existait pour m'empêcher de reprendre, dès cet après-midi même, la route de Londres. Je saisis donc le premier prétexte qui s'offrit à moi pour me défaire poliment de M. Gilmore et rentrer aussitôt à la maison. En remontant dans mon appartement, je rencontrai sur l'escalier Miss Halcombe. Elle vit, à la hâte de mon allure, au changement de mes manières, que j'avais en vue quelque nouvel objet, et me demanda ce qui était arrivé. Je lui fis connaître exactement, dans les termes que je viens d'employer, les motifs qui m'avaient fait songer à précipiter mon départ. « Non, non, » dit-elle avec une insistance presque tendre, « quittons-nous comme des amis se quittent. Rompez avec nous le pain une fois encore. Restez à dîner, restez, et tâchons de rendre la dernière soirée que nous passons ensemble aussi joyeuse, aussi pareille aux premières que nous pourrons y parvenir. Je vous le demande, Mrs. Beasley vous le demande aussi. » Puis elle ajouta, non sans avoir hésité, Laura se joint également à cette invitation. Je promis alors de ne pas partir. Dieu sait que je ne voulais laisser à aucune d'elles même l'ombre d'une impression pénible. Nulle part mieux que dans mon atelier, je ne pouvais attendre le signal du repas. Je ne descendis que quand la cloche eut sonné le dîner. De toute cette journée, je n'avais pas adressé la parole à Miss Fairley. Je ne l'avais pas même aperçue. Notre première rencontre, au moment où j'entrais dans le salon, fut une rude épreuve pour son sang-froid et pour le mien. Elle aussi voulait faire de son mieux pour rappeler, en cette dernière soirée, le temps qui n'était plus et qui jamais ne devait renaître. Elle avait mis celle de ses toilettes que naguère j'admirais le plus, une robe de soie bleu foncé, garnie avec un goût original d'une dentelle ancienne. Elle vint au-devant de moi, tout aussi empressée que jamais. Elle me donna la main avec cette innocente et franche bonne volonté du temps où nous étions si heureux. Mais ses doigts glacés qui tremblaient, mêlés aux miens, ses joues pâles, au centre desquelles brillait comme plaquée une espèce de tache rouge et brûlante, ce faible sourire qui s'efforçait de naître sur ses lèvres et peu à peu s'éteignait sous mon regard, me dirent assez au prix de quelle abnégation elle parvenait à conserver le calme dehors. Si mon cœur eût pu l'envelopper d'une plus forte étreinte, je l'aurais aimé, à ce moment-là, mieux que jamais je ne l'avais aimé jusqu'alors. M. Gilmore nous fut d'un grand secours. Il était d'une humeur charmante et mena la conversation avec un entrain sans égal. Miss Halcombe le secondait résolument, et je suivais de mon mieux l'exemple qu'elle me donnait ainsi. Ses yeux si tendres, dont j'avais si bien appris à interpréter l'expression dans ses nuances variées et mobiles, s'était tourné vers moi dès le début du dîner, m'apportant une prière muette mais irrésistible. « Aidez ma sœur, » semblait dire ce doux visage inquiet, « aidez ma sœur et vous m'aiderez aussi. » Le dîner se passa fort bien, du moins toutes les apparences furent sauvées. Quand les dames se furent levées de table et que nous restâmes seuls, M. Gilmore et moi, dans la salle à manger, un nouvel incident s'offrit pour occuper notre attention et me fournir l'occasion de garder pendant quelques minutes un silence dont j'avais besoin afin de me calmer. Le domestique envoyé à la recherche d'Anne Catherick et de Mrs. Clement revint au rapport et fut immédiatement introduit dans la salle à manger. « Eh bien, » dit M. Gilmore, « qu'avez-vous découvert ?»« J'ai découvert, monsieur, » répondit cet homme, « que les deux femmes ont pris ici, à notre station, des billets pour Carlisle. Naturellement, vous êtes parti pour Carlisle, sachant une fois ceci. En effet, monsieur. Mais je regrette de vous dire que je n'ai pu trouver, plus loin, aucune trace des deux voyageuses. Vous avez pris vos renseignements au chemin de fer ? Oui, monsieur. Aux différentes auberges ? Oui, monsieur. Et vous avez laissé au bureau de police un exposé de faits que j'avais rédigé pour vous ? Je l'ai remis, monsieur. Eh bien, mon ami, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et j'ai fait, moi, tout ce que je pouvais. Jusqu'à nouvel ordre, par conséquent, les choses resteront où elles en sont. Nous avons joué nos atouts, monsieur Hartwright, continua le vieux gentleman, quand le domestique se fut retiré. Du moins, pour l'instant, ces dames ont mieux manœuvré que nous. Et nous n'avons plus maintenant qu'à espérer, pour lundi prochain, l'arrivée ici de Sir Percival Glyde. Voyons, ne remplirai-je plus votre verre ? Voilà ce que j'appelle une bonne bouteille de Porto. Un vieux vin, robuste, qui réconforte. J'en ai pourtant meilleur au fond de ma cave. Nous rentrâmes au salon, dans ce salon où j'avais passé les plus heureuses soirées de ma vie, où, lorsque celle-ci serait passée, je ne devais plus la revoir jamais. Depuis que les jours avaient raccourci, depuis que le temps était devenu froid, l'aspect de cette pièce était changé. Les portes vitrées donnant sur la terrasse étaient closes maintenant et masquées d'épaisses portières. Au lieu de cette douce pénombre du crépuscule dans laquelle d'ordinaire nous restions assis en causant, le brillant éclat des lampes éblouissait aujourd'hui mon regard. Tout était changé. Au-dedans, comme au-dehors, tout était changé. Miss Halcombe et M. Gilmore étaient assis à la table de jeu. Mrs. Vesey s'était retirée au fond de son fauteuil accoutumé. Dans l'emploi de leur soirée, aucune gêne, aucune contrainte. Et la remarque même que j'en fis me rendait plutôt pénible l'emploi de la mienne. Je vis Miss Fairley arrêtée près du coffre à musique. Le temps avait été où je serais allé l'y joindre. J'attendais irrésolu, ne sachant ni où aller ni que faire. Elle jeta de mon côté un prompt regard, prit tout à coup dans les rayons un morceau de musique, et d'elle-même vint à moi. « Vous jouerai-je une de ces petites mélodies de Mozart que vous aimez tant ?» me demanda-t-elle en ouvrant la musique, avec une précipitation nerveuse et parlant les yeux baissés. Avant que j'eusse pu la remercier, elle alla d'un pas rapide s'asseoir au piano. Près de l'instrument, le fauteuil où j'avais l'habitude de m'établir restait vide. Elle frappa quelques accords, puis, se retournant, jeta un regard vers moi, puis ramena ses regards vers sa musique. « Ne voulez-vous plus de votre ancienne place ? » dit-elle, parlant avec un brusque effort et très bas. « Pour ce dernier soir, je puis donc la prendre ? » répondis-je. Elle ne répliqua point. Elle semblait vouloir donner toute son attention à la musique, une musique qu'elle savait par cœur et que 100 fois, naguère, elle m'avait jouée sans ouvrir le livre. Je ne pus me douter qu'elle m'avait entendu. Je ne pus me douter qu'elle s'apercevait de ma présence auprès d'elle, qu'en voyant s'effacer les couleurs de la joue exposée à mes regards et une pâleur livide s'épandre peu à peu sur tout ce beau visage. « Votre départ me fait beaucoup de peine, » dit-elle d'une voix à peine perceptible, et ses yeux demeuraient fixés sur la musique avec un redoublement d'attention. Et ses doigts volaient sur les touches du piano avec une énergie fiévreuse que jusque-là je n'avais jamais remarqué en elle. Je me rappellerai ces bonnes paroles, Miss Fairley, longtemps après que la journée de demain aura commencé, aura fini. Son pâle visage pâlit encore et sembla, se détournant, évitait mon regard. « Ne parlons point de demain, » dit-elle. « Laissons la musique nous entretenir de cette soirée et dans une langue plus expressive que la nôtre. » Ses lèvres tremblaient. Il s'en envola un faible soupir qu'elle essaya vainement d'arrêter au passage. Ses doigts hésitaient sur le piano. Une fausse note lui échappa. En voulant se reprendre, elle se troubla davantage et finit par laisser tomber ses mains avec un mouvement de dépit. Miss Halcombe et M. Gilmore, de la table de jeu où ils étaient assis, lui jetèrent un regard étonné. Jusqu'à Mrs. Vesey, sommeillant au fond de sa bergère, que réveilla la brusque interruption de la musique et qui s'informa de l'accident arrivé. « Vous jouez le whist, M. Hartwright ?» me demanda Miss Halcombe, jetant un regard significatif sur la place que j'occupais. Je savais ce qu'elle voulait dire. Je savais qu'elle avait raison, et je me levai tout aussitôt pour aller m'asseoir à la table de jeu. Au moment où je quittais le piano, Miss Fairley tourna une page de la musique, et frappant les touches d'une main plus sûre, « Je la jouerai, » dit-elle, et son jeu s'accentua jusqu'à devenir presque passionné. Pour ce dernier soir, je la jouerai. « Allons, Mrs. Vesey, » dit Miss Halcombe. « Monsieur Gilmore et moi sommes là de l'écarter. Faisons un whist. Monsieur Hartwright sera votre partenaire. » Le vieil avocat sourit d'un air railleur. Il avait déjà l'avantage et venait de retourner un roi. Aussi attribuait-il évidemment le soudain changement de jeu organisé par Miss Halcombe à l'aversion que les dames professent toujours pour les parties où elles sont en perte. Le reste de la soirée s'écoula sans une parole, sans un regard d'elle. Elle resta au piano, je restai à la table de whist. Elle jouait sans s'arrêter, comme si elle cherchait dans la musique un refuge contre elle-même. Parfois ses doigts appuyaient sur les notes avec un ralentissement doux, plaintif et tendre, d'une tristesse et d'un charme inexprimables. Il faiblissait aussi parfois et trompait sa volonté, ou bien errait machinalement sur le piano, comme si la tâche qu'ils accomplissaient leur était un ennui et une fatigue. Mais s'il variait, s'il flottait en quelque sorte dans l'expression qu'il donnait à la musique, jamais ils ne fléchirent dans leur résolution de jouer jusqu'au bout. Elle ne se leva du piano qu'au moment où nous allions tous nous retirer. Mrs. Vesey était la plus près de la porte et fut la première à m'offrir la main. « Je ne vous reverrai plus, Monsieur Hartwright, » dit la vieille dame. « Je suis vraiment fâché que vous nous quittiez. Vous avez été très bon et très attentif. Attentions et bontés ne sont jamais perdues quand elles s'adressent à une femme de mon âge. Je vous souhaite, monsieur, toutes sortes de bonheur. Recevez mes meilleurs adieux. » Monsieur Gilmore venait ensuite. « J'espère, Monsieur Hartwright, que l'avenir nous garde quelque occasion de faire plus amplement connaissance. Vous êtes parfaitement sûr, n'est-il pas vrai, que cette petite affaire n'est pas tombée en mauvaises mains ? Oui, oui, cela va sans dire. Bonté divine, comme il fait froid. Ne restez pas ainsi devant cette porte. Bon voyage, mon cher monsieur. Bon voyage, comme disent les Français. » Suivit Miss Halcombe. « Demain matin à 7h30, dit-elle. » Puis, se penchant vers moi et parlant très bas, elle ajouta, « J'ai su et j'ai vu plus que vous ne croyez. Votre conduite ce soir vous a valu mon amitié pour la vie. » Miss Fairley venait la dernière. En prenant sa main et en songeant à la matinée qui allait suivre, je n'osais me hasarder à lever les yeux sur elle. « Il me faut partir de très bonne heure, dis-je. Je serai donc bien loin, Miss Fairley, avant... »« Non, non, » interrompit-elle précipitamment, « pas avant que je sois sorti de chez moi. » « Je descendrai déjeuner avec Marion. Je ne suis pas assez ingrate à ces oublieuses de ces 3 mois. » Ici, la voix lui manqua. Sa main étreignit doucement la mienne, puis la laissa retomber soudain. Avant que j'eusse pu dire « bonne nuit », elle avait disparu. J'arrive rapidement à la fin de ces souvenirs. J'y arrive sans pouvoir l'éviter, comme j'arrivais à l'aurore de cette dernière matinée où j'allais quitter Limeridge House. Il était tout au plus 7h30 quand je descendis. Toutes deux, pourtant, m'avaient devancé à la table du déjeuner. Dans cet air glacé, à ces clartés voilées, dans ce morne silence matinal qui enveloppait encore le château, nous nous assîmes, nous trois, tâchant de manger, tâchant de causer. Mais ces efforts que nous faisions pour garder certains dehors d'étiquette n'avaient rien que de pénible et de vain. Aussi me levai-je bientôt pour y mettre un terme. Miss Hal Coombe, qui était le plus près de moi, saisit la main que je tendais à toutes deux. Miss Fairley, alors, se détournant tout à coup, quitta la salle à pas presser. « Cela vaut mieux, » dit Miss Hal Coombe, quand la porte se fut refermée. « Cela vaut mieux pour vous et pour elle. » Il s'écoula un moment avant que je pusse parler. N'était-il pas dur de la perdre ainsi, sans un mot, sans un regard d'adieu? Je me contraignis pourtant. J'essayai de prendre congé de Miss Hal Coombe dans les termes les plus convenables. Mais toutes ces formules d'adieu, que je cherchais vainement, aboutirent à une seule phrase. « Ai-je mérité que vous m'écriviez ?» Ce fut là tout ce que je pus dire. « Vous avez mérité, noblement mérité, tout ce que je pourrais faire pour vous, aussi longtemps que nous vivrons l'un et l'autre. Quelle que soit la fin de tout ceci, vous en serez certainement informé. Et si jamais je pouvais encore vous être utile, n'importe comment et n'importe quand, lorsque tout souvenir de ma présomption et de ma folie sera effacé, je ne pus rien ajouter. La voix me manqua, et mes yeux se mouillèrent en dépit de moi-même. Elle me prit par les deux mains, elle les pressa dans une forte et virile étreinte, ses yeux noirs brillèrent, son teint brun s'anima de teintes enflammées, sa physionomie énergique s'embellissant des purs reflets de la générosité qui échauffait son âme. « Oui, dit-elle, je me fierai à vous si jamais cette heure sonne. Je me fierai à vous comme à mon ami et à son ami, comme à mon frère et à son frère. » Elle s'arrêta, elle m'attira vers elle, l'intrépide et noble créature, et comme ma sœur eût pu le faire, toucha mon front de ses lèvres. M'appelant ensuite par mon nom de baptême, « Dieu vous protège, Walter, » me dit-elle. « Demeurez ici et calmez-vous. J'aime mieux pour tous deux ne pas rester avec vous. C'est du balcon que je vous verrai partir. » Elle quitta la salle. Je me détournai vers la fenêtre, où je n'avais en face de moi qu'un paysage d'automne, triste et désert. J'y restai pour maîtriser mes sensations, avant de quitter moi aussi cette salle et de la quitter à jamais. Une minute s'était écoulée. Peut-être, mais j'en doute, un peu plus d'une minute, lorsque j'entendis la porte se rouvrir doucement et le frissonnement d'une robe de femme traînant sur le tapis se rapprocha de mon côté. Mon cœur battait violemment lorsque je me retournai. De l'autre extrémité de la galerie, Miss Fairley venait à moi. Elle s'arrêta, hésitante, quand nos yeux se rencontrèrent lorsqu'elle vit que nous étions seuls. Puis, avec ce courage que les femmes perdent si souvent dans les petites occasions et si rarement dans les grandes, elle continua de marcher vers moi, singulièrement pâle et tranquille, traînant après elle une de ses mains sur la table le long de laquelle elle avançait, et dans l'autre main, pendant à son côté, tenant un objet que me cachaient les plis de son vêtement. « Je suis allée dans le salon, me dit-elle, pour chercher ceci. » « Ce sera un souvenir de votre visite ici et des amis que vous y laissez. Vous aviez trouvé, quand je le fis, que mes progrès étaient très marqués, et j'ai pensé que vous aimeriez. » En détournant la tête, elle m'offrit, à ces mots, une petite esquisse, toute de sa main, représentant le pavillon d'été où nous nous étions vus pour la première fois. Le papier qu'elle me tendit tremblait dans sa main. Il tremblait dans la mienne lorsque je l'eus reçu d'elle. Je craignais d'exprimer ce que je sentais. Je répondis seulement, « Jamais ce souvenir ne me quittera. Il sera toute ma vie mon trésor le plus cher. J'en suis bien reconnaissant. Et je vous sais bien bon gré de ne pas m'avoir laissé partir sans vous dire adieu. » « Oh, dit-elle naïvement, comment cela se pouvait-il, après tant d'heureux jours passés ensemble ?»« Ces jours ne reviendront jamais, Miss Fairley. Ma route et la vôtre sont séparées par des abîmes. Mais si une occasion se présentait où mon dévouement de cœur et d'âme put vous donner un instant de bonheur, vous épargner un instant de chagrin, voudrez-vous ne pas oublier le pauvre professeur de dessin dont vous avez reçu les leçons ?»« Miss Halcombe a promis de se fier à moi. Voudrez-vous aussi me faire cette promesse ?» Dans ses beaux yeux bleus, au bon regard, et derrière les larmes dont il commençait à se gonfler, brilla légèrement voilée la mélancolie des adieux. « Je le promets, » dit-elle d'une voix brisée. « Oh, ne me regardez pas ainsi. Je vous le promets du fond du cœur. » Me risquant un peu plus près d'elle, je lui tendis la main. « Bien des amis vous ont voué leur affection, Miss Fairley. Votre bonheur à venir est l'objet chéri de bien des espérances. Ne puis-je dire, au moment de nous quitter, qu'il est aussi l'objet le plus cher aux miennes ?» D'abondantes larmes coulaient le long de ses joues. Elle appuya sur la table une main tremblante pour se soutenir, tandis qu'elle me donnait l'autre. Je la pris dans les miennes. Je l'y tins captive. Ma tête s'inclina sur cette main, mes larmes la mouillèrent, mes lèvres allèrent s'y poser. Non par un élan d'amour, oh non, à cet instant suprême ce n'était pas de l'amour, mais dans cette agonie du désespoir qui s'abandonne lui-même. « Pour l'amour de Dieu, laissez-moi, » dit-elle, d'une voix affaiblie. Ainsi s'échappa dans ces quelques mots suppliants la révélation du secret de son cœur. Ces mots, je n'avais pas le droit de les entendre, je n'avais pas le droit d'y répondre. Au nom de sa faiblesse sacrée, ces mots m'interdisaient de rester auprès d'elle. Tout était fini. Je laissais aller sa main. Je n'ajoutais pas une parole. Les pleurs qui m'aveuglaient la dérobaient à mes yeux, et pour les voir une dernière fois, je dus les sécher à la hâte. Ce regard me la montra comme affaissée dans un fauteuil, posant ses deux bras sur la table, et sur eux abaissant sa belle tête avec un mouvement d'inexprimable fatigue. Ce regard fut le dernier, la porte s'était refermée sur elle. L'abîme de la séparation s'était ouvert entre nous. L'image de Laura Fairley n'était plus qu'un souvenir du passé. Fin du récit de Hartwright.